Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir apporter le message. C'est une première pour moi de le faire en vidéo. Alors j'espère que ça sera agréable pour vous à voir. Je me suis dit qu'en fait, on n'aurait jamais été aussi proche qu'au travers de cette vidéo parce que quand on est dans la salle à Etupes, vous ne me voyez pas d'aussi près. Mais j'espère voilà, que ça sera agréable à écouter et surtout que ce matin, on a cette envie commune de se placer devant Dieu, devant ce Dieu qui est si bon, celui qui pardonne et guérit, comme on vient de le lire dans le psaume 103. Il est ce Dieu qui nous rachète du gouffre. Il est ce Dieu qui nous couronne, qui nous entoure de sa bienveillance. On a tellement besoin de se rappeler ses promesses en ces moments si particuliers que l'on vit. En tout cas, je crois qu'avec ce qu'on traverse en ce moment, on se rend facilement compte que l'autonomie, que la force que l'on pouvait penser avoir individuellement, collectivement, est en fait une sorte de mythe, presque, on pourrait dire aujourd'hui, un fake, et qu'en fait, on n'a pas cette autonomie individuelle ou même au niveau d'une nation. On a une dépendance aux autres qui est très forte et on le voit, on le vit quand on traverse des moments difficiles comme en ce moment. On a toujours besoin les uns des autres, mais humainement, on est tellement attaché à notre propre autonomie, à pouvoir choisir ce que l'on veut, faire sa propre loi en quelque sorte. Et la Bible nous parle de ça, de ce sentiment d'autonomie que l'homme, que l'être humain recherche. Mais Dieu dit qu'on est en fait incapable d'abandonner cette illusion de l'autonomie et de notre force sans une aide extérieure. On en est incapable sans aide extérieure. Quand j'y réfléchis, je me dis que ça pourrait presque être un peu ironique, sauf que là, le sujet est quand même grave. Et j'ai trouvé ce matin que le psaume 103 que Guillaume nous a lu introduit parfaitement bien le message que j'ai pour vous. On va reprendre en fait notre série de messages dans l'évangile de Luc. Et ce matin, j'aimerais que l'on voit ensemble comment la volonté et la puissance de Jésus peut changer nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse voir cela au travers d'un texte dans le chapitre 5 de l'évangile de Luc, dans les versets 12 à 26. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous avez les petites Bibles blanches que l'on a à l'église, c'est à la page 664, et donc je vais lire au chapitre 5, les versets 12 à 26. Jésus était dans une des villes, et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit. Tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il recommanda de n'en parler à personne. Mais dit-il, « Va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchait à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Au travers de cette lecture, nous voyons combien, au travers de ces deux miracles, nous voyons combien, d'une part, le lépreux avait besoin d'être purifié, et d'autre part, combien le paralytique, le paralysé, avait besoin d'être pardonné. Et surtout, nous voyons aussi qu'au travers de ces deux miracles, Jésus montre quelle est sa volonté, quelle est sa puissance, son autorité, qui permet justement de changer la vie du lépreux, du paralysé. Nous avons là l'image d'une vie purifiée et d'une vie pardonnée, et de surtout de ce Jésus qui se révèle comme étant celui qui, par sa volonté, sa puissance, purifie et pardonne. Il est le Tout-Puissant. Et c'est ce que nous allons voir un peu ce matin ensemble. J'aimerais juste rappeler où est-ce qu'on en est dans l'évangile de Luc. Jésus, au début de son ministère, c'est au chapitre 4 dans l'évangile de Luc, Jésus annonce ce qu'il est venu faire. Il est venu pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer une libération, une délivrance, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire un temps d'extrême générosité de la part de Dieu. Et en fait, depuis le début, Luc nous montre que Jésus a autorité sur toute chose. Jésus est celui qui parle et agit avec autorité, il chasse les démons, il a autorité sur toute la création. Et je n'oublie pas que Luc a pour but que ses lecteurs, dont son ami Théophile était le premier, que ses lecteurs reconnaissent l'exactitude, la certitude des enseignements qu'ils ont reçus. Au travers de Luc, je crois que ce matin, Dieu veut nous montrer quelque chose de particulier sur qui est Jésus et sur ce qu'il peut faire. Il veut que nous soyons nous-mêmes invités à creuser, à comprendre le sens de ce qui s'est passé, de ce qui est raconté au travers de ces deux miracles. Oui, parce qu'en fait, Luc choisit deux miracles qui, dans les autres évangiles, ne sont pas à la suite, ne sont pas côte à côte. Mais là, Luc met ces deux miracles, la guérison du lépreux et du paralytique, côte à côte pour nous montrer quelque chose de précis concernant Jésus. J'aimerais d'abord qu'on voit avec la guérison du lépreux combien sa vie est purifiée. La lèpre, en fait, c'est un mot qui recouvre un peu plein de maladies de peau assez importantes. On a deux chapitres dans l'Ancien Testament, Lévitique 13 et 14, qui nous décrivent quelles étaient toutes les règles que le sacrificateur devait observer pour voir s'il y avait la maladie ou pas, comment il devait traiter, etc. Et aussi tous les rituels pour les sacrifices quand quelqu'un pouvait être déclaré guéri. Et en pensant à cette maladie qui rend impur, qui rend, voilà, comme le dit l'Ancien Testament, qui rend vraiment impur, pas seulement physiquement, mais aussi rituellement, les lépreux ne pouvaient pas aller au culte, ne pouvaient pas aller au temple. Ils étaient impurs physiquement, spirituellement, moralement. En fait, dans l'Ancien Testament, la lèpre, c'est l'image parfaite du péché. Et vous vous souvenez peut-être, dans l'Ancien Testament, on a l'histoire de trois personnes qui sont atteintes par la lèpre et qui en sont guéries. C'est Naaman, c'est Myriam, la sœur de Moïse, et Moïse lui-même. Cette lèpre qui touche le lépreux, on voit dans ce que Luc raconte, et il le précise vraiment bien, plus que les autres évangiles, que ce lépreux est entièrement couvert de la lèpre. Je dirais complètement rempli de cette maladie, de cette lèpre. Et ce lépreux, il vient demander, il supplie l'Éternel. En pensant au lépreux, je me suis dit, mais en fait, lui, il vit continuellement ce que nous, on vit depuis quelques jours, quelques semaines. Les lépreux étaient des éternels confinés. Ils étaient continuellement à l'écart de la société à cause de cette maladie. Mais ce lépreux, avec respect, mais aussi avec foi, vient devant le Seigneur. Il tombe face contre terre et montre par là son respect. Il s'adresse à Jésus comme à son Seigneur et il exprime sa foi. Ce lépreux vient supplier Jésus. J'ai pensé aussi, en regardant ce premier miracle, cette première guérison, au sacrificateur qui a dû voir le lépreux à la fin. En fait, ce sacrificateur, de tout ce que l'on sait et qui nous est raconté dans la Bible, c'est le premier sacrificateur qui constate la guérison de la lèpre. Les trois personnes que j'ai citées tout à l'heure, Naaman, Myriam, Moïse, n'ont pas eu à aller voir le sacrificateur. Dieu les a déclarés guéris et n'ont pas eu besoin d'aller voir le sacrificateur. Mais là, pour la première fois, un sacrificateur allait constater la guérison de la lèpre. Tout ça à cause de ce que Jésus a fait. Alors, ce Jésus a fait quelque chose d'incroyable, d'impensable. Jésus, nous dit Luc, a touché le lépreux. Il a touché l'intouchable. Ce qui est frappant, c'est que en faisant cela, Jésus n'a pas peur de s'associer au lépreux. En touchant, il s'associe. Il démontre sa solidarité, sa compassion. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Jésus, par ailleurs, ne touche jamais, ne s'associe jamais aux personnes, par exemple, qui sont sous l'emprise de démons. Il ne leur impose même jamais les mains. Sa parole suffit et a pleine autorité pour chasser les démons. Mais là, avec ce lépreux, Jésus touche. Et pour la première fois de nouveau, un homme va toucher un lépreux et ne sera pour autant pas impur. Au contraire, Jésus va renverser ce qui était une malédiction et donner la bénédiction. Il va guérir. On voit là tout d'un coup un homme, Jésus, qui est tout puissant et qui n'est pas soumis aux faiblesses humaines. Il y a là l'expression de sa toute puissance. Et Jésus, s'adressant au lépreux, va reprendre l'expression que le lépreux lui-même a utilisée. Il va dire « Oui, je le veux ». Et en reprenant ces paroles, Jésus va confirmer le rôle déterminant de sa volonté. Il a l'autorité et la puissance nécessaires. Il lui suffit en fait de décider pour que cela arrive, que cela se fasse. Jésus montre combien sa volonté est déterminante. Oui, il le veut. Mais il ne veut pas, par la même occasion, ne pas respecter la loi. Et il va dire à ce lépreux, ne dis rien à personne, mais va voir le sacrificateur. Jésus ne cherche pas à être applaudi pour ce qu'il fait. D'ailleurs, il le dit clairement, Jean le rapporte dans Jean 5, verset 41, qu'il ne cherche pas, il dit, je ne cherche pas la gloire des hommes. Jésus n'est pas juste un faiseur de miracles, il est bien plus. On peut être attiré par ce que l'on voit, ce qui impressionne, et en même temps, passer à côté de l'essentiel. Jésus accomplit parfaitement la loi de son père. Le lépreux guéri qui va aller voir le sacrificateur va permettre à la loi elle-même, en quelque sorte, de témoigner en faveur de Jésus, ainsi que voilà, de son autorité sur la maladie. Jésus renvoie le lépreux vers le sacrificateur pour que la loi soit respectée et en même temps, bien entendu, que le sacrificateur soit au bénéfice de ce témoignage. Ce qui me frappe, c'est que Luc, à la fin de ce miracle, nous précise quelque chose qu'on n'a pas dans les autres évangiles, c'est que Jésus se retire pour prier. En fait, Luc, c'est un des évangélistes qui nous parle de plus de Jésus qui prie. C'est même le seul qui nous rapporte une parabole que Jésus a enseignée pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Jésus savait où est-ce qu'il devait aller chercher ses forces, ses ressources, quand la pression devenait plus grande, quand ce qui pourrait l'influencer se fait plus fort, il va chercher dans la prière la force qu'il a besoin auprès de son père. Il doit rester concentré sur sa mission. Il a besoin de se ressourcer. Eh bien, Jésus prie. Et cette prière, la manière dont Jésus prie, la manière dont, de manière habituelle dans le temps, on voit Jésus qui prie, finalement, cette prière, ça devient une attitude. Jésus a pleinement foi en son Père et il s'attend à son intervention. C'est aussi un modèle, un exemple pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, il me semble que la prière, le fait que Luc décrive Jésus qui se retire pour prier, ça fait un peu écho, ça vient un peu en réponse à la supplication, à la demande, en quelque sorte à la prière du lépreux. Jésus est là aussi pour répondre à nos prières. Et son souhait, ce qui est le centre peut-être de ce miracle, c'est que le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Il faut le dire clairement. Dieu veut notre bien. C'est vrai, il faut aussi le dire clairement, on ne sait pas toujours, même pas souvent, comment. Le miracle ou la guérison n'est pas une fin en soi. Mais on ne devrait jamais, on ne doit jamais mettre en doute la bonté, la bienveillance que Dieu a envers nous, cette bienveillance qui nous couronne, qui nous environne. Dieu veut nous conduire. Dieu veut accueillir tous ceux qui s'approchent de lui. C'est vrai, je ne connais pas, nous ne connaissons pas tout ce que Dieu a décidé. Mais il fait tout pour sa gloire et pour le salut et la sainteté de ses enfants et de son peuple. Il y a quelque chose dans ce miracle que Luc précise encore, c'est que dans sa description, il va préciser que toute la foule, tous les gens s'assemblaient, qu'ils devenaient nombreux et que tous venaient pour deux choses, entendre Jésus, son enseignement, et être guéris de leur maladie, être guéris physiquement. Et comme un peu pour faire le lien entre ces deux miracles que Luc met côte à côte, Luc va repréciser exactement la même chose avec le paralytique. Il dit que Jésus enseignait et que sa puissance se manifestait par des guérisons. Alors après l'accent mis sur la volonté de Jésus, l'accent va être mis ensuite avec le paralytique sur sa puissance et sur sa réelle autorité. Alors pour que l'autorité de Jésus soit attestée, eh bien, il faut qu'il y ait des éminents spécialistes qui soient là. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre situation par exemple, si on veut savoir ce qu'il y a à faire vis-à-vis du virus, quels sont les traitements, je pense qu'il est de bon ton de regarder ce que disent les plus éminents spécialistes et ceux qui sont reconnus comme tels. Eh bien là, c'est pareil. Dans ce deuxième miracle, Luc, contrairement à Marc et Matthieu, va nous préciser que il y a des spécialistes de la loi, des docteurs, des professeurs de la loi qui sont là. Ils sont même là d'ailleurs quand le paralytique est guéri et qu'il se lève. C'est en leur présence que le paralytique se lève et rentre chez lui. Donc voilà le cadre. Les experts sont là pour ce miracle. Mais ce qui est peut-être plus frappant que les experts, ce sont les amis, vous ne pensez pas? Moi, je trouve extraordinaire de voir la détermination de ces amis qui viennent porter leur copain sur leur lit, sur la civière, pour le descendre. C'est incroyable. Cette semaine, on regardait avec les garçons, comme on est confinés, on regarde de temps en temps des petites vidéos humoristiques, et il y en avait une d'un humoriste qui cherchait à expliquer une règle de grammaire à son fils, et qui lui demandait, mais qu'est-ce que c'est un déterminant? Et il essayait de lui expliquer, qu'est-ce que c'est un déterminant? Il se mélangeait un peu les pinceaux, mais il s'était dit que voilà, quelqu'un qui est déterminant, c'est quelqu'un qui détermine, qui est déterminé. C'était pas tout à fait le sens grammatical, mais là, ses amis, ils sont parfaitement déterminés. Quelle foi est-ce qu'ils ont? Cette foi qui porte, qui soutient, qui accompagne celle du paralysé. Une foi qui s'exprime vraiment dans la détermination face aux obstacles. Ils ont cherché et ils sont allés jusqu'à démonter un toit pour faire entrer leur ami dans la présence de Jésus. Ils placent leur ami devant Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à l'écho de cette foi, Jésus Il est dit que Jésus voit la foi de ses amis, de ces personnes. Il voit cette foi et, bah, je suis désolé, mais il y répond d'une manière toute étonnante. Il fait quelque chose de totalement déroutant. Je pense que si on avait été là, présent avec tous les autres, dans cette maison, je pense qu'on se serait attendu, comme tout le monde, à ce que, bah, tout simplement, Jésus guérisse. Et il va le faire. Mais la première réponse de Jésus a dû surprendre. Jésus va honorer la foi. Il dit, il vit la foi de ces hommes. Mais sa première réponse déconcerte. En fait, sa réponse montre que d'abord il se préoccupe du péché et que le miracle va venir ensuite pour illustrer parfaitement le salut qu'il offre et la réalité de l'autorité et de la puissance de Jésus pour le pardon des péchés. Les experts de la loi, qui sont là pour une bonne raison, commencent à se dire, mais qui est celui qui dit ça? Qui peut pardonner? Seul Dieu peut. On pourrait vite se dire, oh là là, ils sont critiques, ils sont déjà en colère contre Jésus. Non, c'est pas le cas. À l'époque, il n'y avait pas déjà de ces tensions. Mais en fait, c'est même l'inverse. Leurs interrogations sont légitimes. Oui, Dieu seul a le pouvoir de pardonner. Je vous lis un verset dans Ésaïe 43, au verset 25. Un verset très clair qui dit combien Dieu est le seul à pouvoir pardonner. Dieu dit, c'est moi seul qui efface tes crimes à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Trois fois Dieu que c'est lui et lui seul par lui-même qu'il pardonne les péchés. En fait, Jésus en répondant de cette manière-là, il vient provoquer la réaction normale, légitime des experts pour pouvoir accomplir le miracle. Jésus ne critique pas les docteurs de la loi. Mais leur réaction lui permet de vraiment centrer ce qu'il va faire sur la question importante. Du coup, il se donne le droit de faire un miracle pour prouver qui il est et ce qu'il peut réellement faire, c'est-à-dire pardonner les péchés. Jésus se révèle au fur et à mesure de ce que les personnes peuvent comprendre. Jésus, dans son autorité, va dire à cet homme paralysé, tes péchés te sont pardonnés. À lui, très précisément, et pour toujours, et de manière définitive. Jésus offre un pardon à qui pour toujours, et il offre une conscience qui est lavée. Il va dire, je te l'ordonne. Oui, il ordonne. Il y a dans ce texte plein d'accent sur vraiment l'autorité et la puissance de Jésus. Et ce miracle est bien là afin que vous sachiez, afin que ce miracle, voilà, est un signe destiné à faire comprendre l'autorité de Jésus. Il a le pouvoir de guérir, mais il a surtout le pouvoir de pardonner. Le pardon des péchés, il faut savoir que ça faisait partie des bénédictions associées à la Nouvelle Alliance. Jésus, là, en se présentant comme la personne qui apporte cette bénédiction, il est en même temps en train de dire qu'au travers de lui, le royaume de Dieu attendu est arrivé. Le pouvoir de Jésus n'est pas que spirituel, que dans le ciel. Il s'exerce bien sur la terre. On pourrait dire que les pas du paralysé prouvent que c'est Dieu qui a agi et qui a parlé. J'ai trouvé intéressant que, si on regarde bien dans le texte, on a même l'impression qu'à la fin de ce miracle, le lit qui est tellement présent partout dans la scène s'efface. Ça ne devient plus que la chose sur laquelle le paralysé était couché et qu'il embarque sous son bras comme ça. Quelle est notre réaction devant ce miracle? La première réaction que l'on voit dans le texte, c'est celle de celui qui est pardonné et qui est guéri. C'est le premier à glorifier Dieu, à rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'il va offrir sa reconnaissance à Dieu. Rendre gloire à Dieu, ça veut dire que l'on vient offrir sa propre reconnaissance à Dieu. On voit que les autres sont aussi... ils ont aussi envie de glorifier, mais ils sont aussi un peu perplexes. Il y a une crainte, il y a Oh, ils ont fait face à des choses étranges. Oui, c'est vrai, la conclusion c'est que Jésus a l'autorité suprême pour pardonner et pour guérir. Il vient de le prouver. Mais peut-être que pour nous aujourd'hui, on a un doute parfois sur la puissance de Jésus. C'est un contraste extrême, terrible, je dirais presque, avec le lépreux. Le lépreux, lui, au début, n'a à aucun moment douté, de la puissance de Jésus pour le guérir. Il a peut-être douté de sa compassion. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est complètement dans un monde à l'inverse. C'est-à-dire que si on pouvait, cet après-midi, aller en ville, à Montbéliard, et faire un micro-trottoir, interviewer des gens, si on demandait aux gens, est-ce que vous trouvez que Jésus, c'était un personnage bon, compatissant, etc., je pense que massivement, les gens diraient, oui, Jésus, c'était quelqu'un de bien, qui voulait faire le bien, qui était compatissant, qui avait la compassion. Par contre, si on demande aux gens, peut-être même si on se demande à nous, est-ce que je crois que vraiment Jésus peut guérir, peut changer, peut transformer une vie, peut pardonner mes péchés? On a peut-être un doute qui s'installe. C'est là où je veux en venir et c'est là où je veux conclure. C'est que au travers de ce qu'on vient de lire ce matin, au travers de ce que Luc nous dit, dans la manière dont il nous dit, ce qu'il veut que l'on puisse vraiment comprendre et assurer dans notre cœur, c'est que Jésus est le Tout-Puissant. Il est celui qui, par sa volonté et sa puissance, son autorité, purifie et pardonne. Il est le Tout-Puissant. C'est une année, c'est un temps de grâce, de miséricorde, de bienveillance que Jésus a annoncé. C'est une libération, c'est un pardon, la libération du jugement de Dieu, de la séparation d'avec Dieu. Dieu ne fait pas que le bien qu'on aimerait qu'il fasse pour nous, mais il va jusqu'à la racine du mal, il pardonne. Voilà, c'est ça le puissant fleuve de la compassion du Dieu vivant. Cette compassion qui veut se déverser dans nos vies pour notre péché et nos maladies. En fait, il n'y a personne qui peut se sauver lui-même. Chacun a besoin que quelqu'un s'approche de lui pour faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Mais Jésus, lui, veut et peut. Face à un exclu, à un marginalisé, à un éternel confiné, il va l'inclure. Il va mettre fin à la malédiction. Il va le transformer, le purifier. Et c'est-à-dire le péché, la lèpre, la quitter. Quand nous approchons de Jésus, le péché nous quitte. Nous pouvons être entièrement libérés de ce poids. Face à un homme paralysé, qui était dans une dépendance totale, Jésus va libérer, va pardonner, va lui permettre de marcher à nouveau. Vous savez, je crois qu'on a tous dans notre entourage des gens qui nous veulent du bien. Des amis, papa, maman, voilà. On a peut-être aussi des gens qui peuvent nous faire du bien. Mon patron, quelqu'un qui est influent, etc. Mais il faut qu'on soit bien conscient qu'il nous faut les deux, car on n'est pas capable de se sauver soi-même. Jésus, lui, peut faire les deux. Il peut et il veut. Il a une parfaite volonté et une parfaite puissance. Et il nous faut un libérateur et un roi puissant. Ce que Jésus nous montre, ce que la Bible nous enseigne, c'est que celui qui dépend de Jésus, qui se mettra en fait en position de faiblesse, de dépendance devant lui, va pouvoir découvrir en Jésus une force et une puissance insoupçonnées. Jésus peut le faire parce que il a accepté un jour la faiblesse la plus totale et une incapacité la plus totale lorsqu'il a été mis à mort à la croix. Il a perdu toute force, toute indépendance, toute autonomie. Et la conséquence de cela, parce qu'il est ressuscité et qu'il a prouvé qu'il avait vaincu la mort, la conséquence de cet acte-là à la croix, c'est qu'il peut, lui, aujourd'hui, et qu'il est le seul à pouvoir aujourd'hui donner à tous les incapables et à tous les impuissants la force d'être et de devenir enfant de Dieu. Et la force que nous avons pour notre vie, déjà ici sur terre, c'est une force qui découle d'une dépendance, d'un lien tellement fort, parce qu'en fait c'est un abandon de notre part qui est volontaire à Christ. Si tu veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et Jésus offre cela gratuitement à tous ceux qui viennent à lui. Mais il faut le courage d'abandonner notre illusion d'autonomie pour s'abandonner à lui. Et en fait, ça, c'est Dieu qui produit cela en nous. Et nous avons besoin de le comprendre. Alors, ce que je viens de décrire, c'est ce qui se passe quand quelqu'un se tourne vers Dieu, se convertit et accepte que Jésus-Christ soit son sauveur, son Seigneur dans sa vie. Mais c'est vrai aussi pour chaque jour, pour nous tous qui sommes peut-être chrétiens depuis de longues années. Notamment, et c'est aussi ce que nous avons vu dans ce passage, cette dépendance se manifeste au travers de la prière. La prière, c'est l'application d'une dépendance. Quand je prie, je peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ta force pour telle ou telle chose, pour telle ou telle situation difficile, pour combattre ma faiblesse. Et là, on va découvrir une force qui n'est pas la nôtre, mais qui est la sienne et qui nous portera tous les jours de notre vie. Vraiment, qu'ensemble, on puisse rendre gloire au Jésus, à Jésus qui a toute autorité et qui veut que nous soyons pleinement fortifiés en lui. Amen.